Voilà, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 à 24, il est dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » On va aller dans le chapitre 4, au verset 3 et le verset 7 aussi. Dans d'autres passages, mais on va les lire au fur et à mesure. Donc chapitre 4, verset 3 d'abord. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de la débauche. Et au verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Point. Donc ce matin, j'aimerais faire un peu de doctrine. Je sais qu'on n'aime pas la doctrine, mais de temps en temps, il faut en faire. Et parler justement de cette sanctification. Et quand on étudie la Bible, on se rend compte qu'il y a trois natures, on pourrait dire, de cette sanctification. Bien souvent, on devient chrétien et puis on commence à faire notre programme. On se dit, dans la vie chrétienne, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire cela. Et bien souvent, on ne se pose pas la question de se demander, mais est-ce que Dieu n'a pas, lui, un programme pour moi déjà ? On veut faire notre vie chrétienne, mais Dieu a aussi une volonté pour moi. Et Dieu nous propose là, en tout cas dans ce domaine-là, un programme clair. Il veut, il ne dit pas « je vous propose peut-être quand vous serez prêt ou quand vous aurez envie, quand vous ne serez pas fatigué ». Il veut notre sanctification, il veut ma sanctification. J'ai là une petite histoire qui va bien en relation avec cela. C'est, on appelle ça le camp de la chance, vous allez comprendre. Je lis tout simplement. Alors, Bret Hart raconte une petite histoire intitulée « La chance d'un camp sauvage ». Selon l'histoire, c'était le camp le plus affreux et le plus dur de tout l'Ouest. Un camp de mineurs, c'est là qu'il y avait le plus de meurtres et de vols. Un lieu horrible, habité seulement par des hommes et une femme qui essayait de les servir. Son nom était, alors j'arrive pas très bien, Cherokee. Elle mourut en donnant naissance à un bébé, une fillette. Les hommes ont pris le bébé et l'ont couché dans une caisse mettant quelques vieux chiffons sous elle. Quand ils ont regardé, ils ont décidé que ce n'était pas bien. Ils envoyèrent l'un des leurs à 130 km pour acheter un berceau en bois de rose. Ils y mirent les chiffons et le bébé dans le berceau de bois de rose. Mais les chiffons ne semblaient pas à leur place dans ce berceau. Alors ils envoyèrent un autre des leurs à Sacramento et il revint avec des couvertures en soie et en dentelle. Ils mirent le bébé enveloppé de ses couvertures dans le berceau en bois de rose. Tout semblait bien jusqu'à ce que quelqu'un remarque que le parterre était si sale. Et ces hommes si rudes, endurcis, se mirent sur leurs genoux et leurs mains, et avec ses mains calleuses, ils frottèrent le parterre jusqu'à ce que ça soit très propre. Évidemment, maintenant que le parterre était propre, on pouvait remarquer la saleté des murs, des plafonds, ainsi que les fenêtres sans rideaux. Alors, ils ont lavé les murs et les plafonds, ils ont mis les rideaux aux fenêtres. Maintenant, les choses commençaient à paraître comme ils pensaient qu'ils devaient paraître. Bien sûr, pour cela, il fallait abandonner les bagarres, parce que le bébé devait dormir beaucoup. Et les bébés, ça ne dort pas quand il y a des bagarres. Ainsi, toute l'atmosphère de ce camp de sauvages s'est apaisée. Ils ont pris l'habitude de promener le bébé dans son berceau de bois de rose jusqu'à l'entrée de la mine pour lui montrer où il travaillait. C'est ainsi que quelqu'un a fait remarquer combien l'endroit était sale. Bon, une mine, c'est un peu normal. Mais... Alors, ils plantèrent des fleurs et ils en ont fait un endroit agréable, un jardin. Ça avait belle allure. Ils aimaient lui montrer les petites pierres brillantes qu'ils trouvaient dans la mine. Mais quand ils approchaient leurs mains à côté des siennes, leurs mains semblaient si sales. Bientôt, le magasin a liquidé son stock de savon, de mousse à raser et les parfums, etc. Bientôt, tous ces types ont été transformés. Ce bébé avait tout changé, en fait, dans leur vie. L'auteur de dire « rencontrer la sainteté de Dieu » devrait normalement produire exactement la même chose. Vous comprenez l'idée, quand on approche de Jésus-Christ, quand on est né de nouveau, on se rend compte qu'on est sale, qu'on est pécheur et qu'on a besoin de changer beaucoup de choses dans notre vie. Et c'est ce qu'on appelle justement la sanctification. Si Dieu veut nous sanctifier, qui suis-je pour lui résister ? Comment je peux lui dire « non, je n'ai pas envie d'être transformé » alors qu'il vient de payer pour moi sur la croix ? On va voir les trois natures de cette sanctification. D'abord la nature positionnelle, puis la sanctification progressive, pardon, et puis la sanctification finale. La sanctification positionnelle est importante parce que c'est une espèce d'acte de justice, et vous allez comprendre pourquoi. Quand on cherche la définition, alors j'en ai plusieurs là, par exemple Darby dit « c'est rendre saint, purifier, mettre à part pour Dieu ». Un autre écrit « c'est l'œuvre gratuite de Dieu par laquelle le pécheur converti est renouvelé dans l'homme entier selon l'image de Christ ». Il y a une idée de transformation complète de l'homme que j'étais avant de connaître Jésus-Christ vers ce que Dieu a comme projet pour moi. Et qui est concerné par la sanctification ? Que le pasteur ? Souvent c'est lui qu'on regarde le plus. vous êtes concerné? Si vous êtes né de nouveau, vous êtes concerné. Obligatoirement, tout chrétien né de nouveau, il faut naître de nouveau évidemment pour le comprendre, est concerné par cette transformation, par la sanctification. Toute l'Église de Jésus-Christ finalement. Dieu veut transformer ma vieille nature, c'est-à-dire il veut enlever le péché, parce qu'on pêche encore, hélas, et on pêchera certainement jusqu'au bout, mais de moins en moins, je l'espère en tout cas. Il veut enlever nos mauvaises habitudes, notre volonté personnelle. Quelqu'un écrivait « La sanctification n'est rien d'autre que Dieu nous revêtant des joyaux de la sainteté. Elle accorde et prépare l'âme pour le ciel. Elle transforme le métal en or et le cœur qui était à l'image de Satan en épître de Christ. » Je trouve ça très joli. Dieu veut nous transformer complètement, changer ce qui était mauvais pour ce qu'il veut maintenant dans notre vie. Et quand on étudie la Bible, on voit qu'il y a trois personnes qui travaillent dans ce domaine, les protagonistes de cette sanctification. D'abord, il y a Dieu qui veut. C'est la volonté de Dieu pour moi que d'être transformé, d'être sanctifié. C'est le désir de Dieu. Il veut vraiment me changer. C'est une chance quelque part, non? Parce que si moi j'avais décidé d'essayer de changer, enfin, est-ce qu'on aurait décidé de changer déjà? Honnêtement. On a déjà du mal à se laisser faire par Dieu, alors tout seul. Mais Dieu veut me transformer. C'est le désir du Seigneur. Souvent, on demande, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? On pense à plein de choses, sauf à se laisser transformer. Il nous appelle tous à devenir saints. Quelqu'un a 1 Corinthiens 1, verset 2. Pensez à bien, bien parler fort pour que tout le monde entende. 1 Corinthiens 1, verset 2. Pas en anglais. Hein.
À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre.
Et puis c'est une personne à 1 Pierre 1, 15 à 16. Pensez à préparer vos versets. 1 Pierre 1, verset 15 à 16.
Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint.
Je crois que c'est vraiment la volonté de Dieu pour nous que de devenir saint. Et de lui ressembler tout simplement. Dans une deuxième personne qui travaille dans ce domaine, c'est Jésus-Christ qui dit que qui nous a sanctifiés une fois pour toutes par son offrande, Hébreux 10, 10.
Oui. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes.
Voilà, c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à mes efforts, mais c'est parce que Jésus-Christ est mort à ma place et m'a sanctifié à ce moment-là. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ et pas par les œuvres ou par je ne sais pas quoi. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé de toute façon et il faut accepter justement que Jésus me sanctifie, mais il faut que j'accepte la croix aussi dans ma vie. Puis le Saint-Esprit se met au travail aussi, c'est par lui que nous sommes régénérés, nous dit Romains 15, verset 16. Je ne sais pas qui là.
La grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'occupe du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint.
Voilà. Le travail des trois personnes de la Trinité qui se mettent à l'œuvre pour que nous puissions vivre cette sanctification. Dans 1 Pierre 1, 2, il dit aussi que le but de la sanctification, c'est de devenir obéissant. Ça veut dire que nous sommes désobéissants. Avant en tout cas, et avec le Seigneur, et grâce à cette sanctification, à cette transformation, je peux devenir obéissant. Ce qu'on appelle la sanctification positionnelle, une espèce d'acte légal, on pourrait dire, qui a été accompli une fois pour toutes, et c'est ma position aujourd'hui devant Dieu. Dieu voit quelqu'un qui est né de nouveau comme quelqu'un de saint. Il ne faut pas confondre les saints des catholiques, ça n'a rien à voir du tout. Dieu me voit comme saint, mais pas grâce à moi, mais au travers de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, j'ai acquis cette position, et comme j'aime à dire, quelque part, au trône de Dieu, là, il y a un diplôme qui dit « Emmanuel est né de nouveau, et il a été sanctifié, et personne ne peut aller me le prendre. » Ou alors, vous êtes plus fort que Dieu, mais ça, vous n'y arrivez pas, je crois. Donc c'est un acte légal qui a été accompli une fois pour toutes, et cette position, je l'ai acquis par le salut. Le salut, ça veut dire que je me suis repenti de mes péchés, j'ai bien compris que j'ai fait des erreurs autrefois. J'ai demandé pardon pour ces péchés et j'ai accepté aussi la grâce de Dieu dans ma vie. Une position juridique, parce que c'est Dieu qui justifie ses élus. Heureusement que ce n'est pas le pasteur ou que ce soit je ne sais pas qui. C'est Dieu qui me déclare juste devant lui et qui me dit que je suis maintenant enfant de Dieu. Et ça veut dire surtout que je ne peux pas perdre cette position. Ça veut dire que je ne peux pas perdre aussi le salut si je suis justifié une fois pour toutes. Si je suis vraiment né de nouveau aussi, à ce moment-là, je ne peux pas perdre et ma sanctification et mon salut. Personne ne peut ravir cette position. Quelle chance, non? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement s'ils vont être sauvés ou pas et qui passent une vie terrible, en fait. Mais moi, la Bible me dit qu'une fois que je suis né de nouveau, je suis sauvé. Si demain je meurs, je n'ai pas envie de mourir tout de suite. Mais bon, si je devais partir, ben, je sais où je vais avec le Seigneur pour l'éternité. Tout ça, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. Formidable. Le jour où vous aurez un doute dans votre vie, et ça peut arriver, de se poser la question, parce que je suis tombé dans tel péché ou je ne sais pas, vous êtes vraiment né de nouveau, souvenez-vous que ça ne dépend pas que de vous. Il suffit de demander pardon, comme dit la Bible, et le Seigneur nous relèvera. La sanctification positionnelle est donc un acte légal, juridique devant Dieu. Il n'y a rien de plus. C'est fait une fois pour toutes si on est né de nouveau. Seulement, la Bible nous parle aussi de cette sanctification progressive. Je suis né de nouveau, ça ne s'arrête pas là, maintenant je me mets au travail. Je vais avancer dans ma vie. C'est un processus de transformation quotidien, mais avec des objectifs aussi. 2 Corinthiens 3, 18. Quelqu'un a ça normalement.
Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur.
Voilà. Il y a un but maintenant. Je suis sauvé, maintenant le Seigneur veut faire quelque chose avec moi, c'est enlever tout ce qui n'est pas à l'image de Christ. Il y a beaucoup de choses à enlever ? Énormément de choses à enlever. Et encore, on n'est pas arrivé au bout parce que quand on grandit, je me rends compte qu'on n'est pas la même personne qu'on avait 20 ans et on aspire à d'autres choses et on change complètement. Donc il y aura beaucoup de choses à changer au fur et à mesure de ma vie. Un théologien disait, la sanctification donc consiste en deux choses. Premièrement, à renoncer de plus en plus au principe du mal qui infecte toujours notre nature et en détruire la puissance. Et deuxièmement, à développer le principe de vie spirituelle qui contrôlera pensée, sentiment et action et amènera l'âme en conformité à l'image de Christ. Le pécheur que je suis, sauvé, mais pécheur hélas, j'ai envie de ressembler de plus en plus au Seigneur. Non ? Mais guide Seigneur déjà. Si je ne le connais pas, mon Seigneur, comment je peux lui ressembler? Si je ne prends pas le temps de lire la Bible, d'apprendre à connaître son caractère, son amour, sa façon d'agir dans des circonstances, comment est-ce que je peux imiter ce Seigneur dans ma vie? Donc c'est tellement important aussi de lire la parole de Dieu pour connaître qui est vraiment Jésus-Christ et pour commencer à vouloir l'imiter. Vous savez, un papa, généralement, ça imite son fils. Quand papa va faire du bricolage, le fils, après, plus tard, je ne sais pas si tout le monde l'a fait, mais on va essayer d'imiter papa. Moi, j'ai un Père céleste là-haut. Alors, je ne l'ai pas vu encore, mais la Bible me révèle qui il est, me révèle son amour, sa manière d'agir, etc. Et donc, j'ai envie, j'essaye, en tout cas, d'imiter mon papa, qui est là-haut dans le ciel. Sanctifié, dans 1 Thessaloniciens 5, il est dit, sanctifié dans tout notre être. Corps, âme, je ne sais pas où elle est, et l'esprit. C'est vraiment un travail en profondeur que Dieu veut faire. Parce que souvent, on dit, on va travailler sur le corps, mes yeux peut-être, mais... L'âme, l'esprit, c'est tout l'être entier qui est pourri, souillé par le péché et qui a besoin d'être transformé. Nos raisonnements. Je ne sais pas si vous raisonnez de la même manière aujourd'hui qu'il y a 20 ans, face à une situation, à des difficultés. Comment on aurait réagi? Et maintenant, en tant que chrétien, il y a des versets qui viennent à la tête. Je sais que je n'ai pas le droit de tricher, je sais que je n'ai pas le droit de faire ces choses-là, et je vais agir complètement autrement. Le Seigneur a transformé mes pensées, a transformé mon raisonnement, tout mon être. Et c'est formidable parce qu'aujourd'hui, on prend des bonnes décisions. Enfin, j'espère, pour vous en tout cas. Il faut un nettoyage en profondeur, réparer les dégâts de la chair. Quelqu'un écrivait, en parlant d'un groupe de touristes qui découvrait la ville de Londres, et on les conduisit dans un atelier de sculpture. L'un des visiteurs demanda à un ouvrier qui travaillait une tête de lion, « Est-ce difficile de sculpter un lion ?»« Oh non, » répondit-il malicieusement, « il s'agit simplement d'enlever tout ce qui ne ressemble pas à un lion. » Tout simplement. L'auteur d'appliquer, est-ce difficile d'être un vrai chrétien? Non. Il s'agit simplement d'enlever tout ce qui ne ressemble pas à un chrétien. Mensonge, impureté, compromis, mondanité, etc. etc. Dieu veut nettoyer en profondeur mon être. Il veut me rétablir quelque part comme à l'homme d'origine qu'il avait fait, avec Adam et Ève peut-être, même si ça n'a pas pareil. En tout cas, il voudrait qu'on lui ressemble de plus en plus. Et ça, ça va demander combien de jours pour vous transformer là? 15 jours, 20 jours? On est déjà des vieux chrétiens pour certains, hein, et on se rend compte qu'il y a encore du boulot, hein, énormément de boulot. C'est pour toute la vie. Alors ça peut être un peu déprimant si je vous dis ça ce matin, mais ça sera pour toute la vie. Et je suis sûr qu'à la veille de partir, on a encore peut-être des choses à changer. Mais il ne faut pas se désespérer parce qu'en regardant en arrière, qu'est-ce qu'on se fait du bien, hein, quand on enlève le péché dans notre vie, on se fait du bien finalement. Dieu, souvent on dit « Ah, tu m'embêtes, il faut que j'enlève mes habitudes et tout ça », et je ne me rends pas compte que ça fait du tort. C'est seulement quand c'est enlevé que d'un coup, la liberté que j'ai d'un seul coup, avec mes yeux, avec ma vie. Hein. Dieu désire nous rétablir tout simplement à l'original. Ça oblige une relation avec Dieu, alors dans ce cas-là, parce que si je dis je veux être sanctifié, si je veux me laisser transformer, il faut que je commence à avoir une relation avec Dieu, avec le Seigneur. Hein. Alors le salut, c'est pas facile à l'accepter déjà, mais alors la vie de sanctification, c'est encore plus difficile. Un autre théologien disait, la justification par la foi est la porte étroite. Et la sanctification par l'Esprit qui en résulte, c'est la voie étroite qui aboutit à la gloire. C'est pas facile d'accepter Jésus-Christ parce que c'est un chemin étroit, mais alors c'est encore moins facile de commencer à se laisser transformer réellement par Jésus-Christ. C'est pas impossible, comme c'est pas impossible d'être sauvé. Mais c'est difficile. Pourquoi ? Pourquoi le Seigneur a du mal à nous transformer ?
On résiste, on résiste.
Ah bon ? Tu résistes, bravo. J'effacerai là. Quelqu'un disait notre nature, ouais. Notre nature pécheresse, la chair, hein, nos habitudes, notre raisonnement, notre culture. Il y a un tas de choses qui sont là et qui nous empêchent de nous laisser faire par le Seigneur. Mais ce qu'il voudrait, c'est pas me lobotomiser, parce que Dieu pourrait venir, poum, c'est réglé, voilà. Hein, tu me saoulais, c'est fait. Non. Le Seigneur, lui, il veut qu'on coopère avec lui. Il propose, et c'est à moi maintenant de disposer. Un autre auteur disait « Seul Dieu peut me rendre saint, mais il ne pourra le faire sans ma coopération. Afin d'être des chrétiens bien équilibrés, nous devons reconnaître que l'humain et le divin interagissent. Nous devons prier comme si tout dépendait de Dieu, mais travailler comme si tout dépendait de nous, tout simplement. Hein. » Il y a un travail entre deux personnes qui va se faire maintenant. Dieu n'ira jamais plus loin que ce que moi je lui autorise de faire dans ma vie. C'est logique quelque part. Mais c'est le désir de Dieu de me transformer, et c'est aussi à moi le désir de faire plaisir à Dieu. Souvent, on se pose la question, mais qu'est-ce que je pourrais faire de bon pour le Seigneur aujourd'hui ? Ben, laisse-toi transformer, ce serait déjà pas mal. Hein. Je crois que je serais honoré. 2 Timothée 2, 21, quelqu'un ? Ah, normalement le verset.
Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne.
Dieu veut notre pureté. Christ est mort pour cela, n'oublions pas, qu'on devienne pur, qu'on devienne saint. On ne sera jamais parfaitement saint sur cette terre, on verra ça à la fin, mais on peut essayer d'aller au maximum de cela. C'est aussi à ce moment-là qu'on va devenir utile à Dieu, parce que si je lui résiste constamment, si je ne veux pas me laisser transformer, croyez pas que vous pourrez me servir. C'est difficile de servir Dieu quand je suis dans le péché, parce que quand je suis dans le péché, je sais que je culpabilise quelque part et je n'ai pas envie de le servir. Mais si je me laisse faire par le Seigneur, transformé par le Seigneur, alors je vais aussi pouvoir quelque part lui faire plaisir et me mettre à le servir. D'autres domaines, c'est dans 1 Pierre 1, 2. On va le relire. Quelqu'un, normalement ? On va arrêter là. On va arrêter là. Afin qu'ils deviennent obéissants. Le Seigneur veut notre obéissance. C'est dur. Hein? Est-ce qu'on était obéissants à nos parents déjà ? Moi pas. Mais on a peut-être la même difficulté des fois avec Dieu aussi, hein? Parce que c'est mon parent entre guillemets aujourd'hui. Et bon, là c'est encore plus difficile, on va dire. Mais le Seigneur veut qu'on devienne obéissant. Il veut nous changer, pas simplement pour nous changer, pour enlever le péché, mais parce qu'en changeant, je vais pouvoir me mettre à obéir à Dieu. C'est lui qui va même m'aider à devenir obéissant. Pas extraordinaire, l'aide qu'il m'apporte là-dedans, dans ce domaine-là. Et obéissant, pas que dans un domaine, hein, on est très obéissant le dimanche matin, là, tout ça avec la petite auréole, mais est-ce qu'on est obéissant durant la semaine ? Est-ce que je suis obéissant dans la famille ? Est-ce que je suis obéissant dans le quotidien, dans mon travail, avec les autres, etc. Ça, il y a du travail, je pense. Et comme chaque jour est complètement différent, je ne peux pas me dire un jour, ça y est, c'est réglé une fois pour toutes, je suis saint, parfaitement saint. Le jour où vous faites ça, venez me voir, hein. On va discuter parce qu'il y a un problème. Mais voilà, chaque jour, le Seigneur me veut obéissant. Ce n'est pas que le dimanche matin, c'est tous les jours. Et il y a du travail dans ce domaine-là. C'est une façon de vivre au quotidien, tout simplement, que vivre cette sanctification progressive. C'est la séparation et la transformation. Romains 12, versets 1 à 2.
Je vous exhorte, donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce qui sera votre culte, ce qui sera votre part, excusez-moi, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Voilà. Encore une idée de transformation, mais aussi de séparation d'avec le monde. Pourquoi avec le monde? Ça veut dire qu'on ne doit plus aller travailler, qu'on ne doit plus... Je quitte le monde, je vais aller dans une montagne, là, je ne sais pas où. C'est ça? C'est quoi le monde?
Le monde, les pécheurs.
C'est le système, on va dire, hein, du diable, quelque part. Il est le prince de ce monde. Le Seigneur nous demande de ne pas imiter ce monde-là et de nous laisser transformer. S'il dit qu'on doit être transformé, ça veut dire qu'il y a des choses encore à corriger. Mais oui, hélas. Hein. Il veut nous renouveler même dans notre intelligence. Ah, je suis intelligent, je n'ai pas besoin d'être changé. Mais j'ai besoin de changer mon raisonnement, ma façon de... Parce que je réfléchis comme le monde. En tout cas, autrefois. Évidemment, au fur et à mesure, je change. Je n'ai plus les mêmes idées, les mêmes aspirations. Mais même dans l'intellect, les choses vont changer. C'est dire la profondeur de cette sanctification. Et tout cela pour être conforme à Christ. Conforme à Christ, ça veut dire que je vais faire les mêmes choix que lui. C'est toujours évident. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place dans cette situation-là? Avoir les mêmes réflexes que lui. J'imagine, quand il y avait les pharisiens à l'époque, moi, la première chose que j'aurais fait, c'est de prendre mon marteau, le taper sur la tête, et j'ai dit, écoutez, vous dites n'importe quoi. Jésus n'a jamais fait ça. Avoir les mêmes réflexes, avoir les mêmes paroles, avoir le même amour que Jésus-Christ avait. Il y a du travail d'être conforme à Christ. Et tout cela pour lui devenir agréable. Agréable, hein, pas parfait encore, pas, mais juste agréable déjà. Et je pense qu'il mérite qu'on devienne agréable dans le sens où il a donné sa vie pour moi, non? C'est pas rien quand même, qu'on y réfléchit un petit peu. Et en même temps, pour discerner sa volonté, ça sous-entend que même en tant que chrétien encore aujourd'hui, parfois j'ai l'impression de croire que c'est la volonté de Dieu, c'est pas forcément toujours la volonté de Dieu. J'ai besoin d'être vraiment transformé pour comprendre enfin qu'est-ce qu'il veut dans ma vie. Et évidemment, vous discernerez jamais la volonté de Dieu par un songe, comme on voit le vendredi, mais en lisant la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, chaque jour, vous serez aussi transformé au fur et à mesure. La Bible nous dit aussi que nous sommes une habitation de Christ, dans 1 Corinthiens 6, 19. Je ne sais pas qui l'a.
Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même.
Voilà. Je suis le temple du Saint-Esprit. Vous êtes content? Est-ce qu'on est fier tout le temps? Si vraiment le Seigneur était à côté de moi tous les jours, voyez ce que je fais, ce que j'écoute, ce que je pense peut-être, est-ce que je serais toujours fier? Je ne sais pas. Hein. Mais c'est ça en fait. Hein. Je suis le temple du Saint-Esprit et Jésus habite en moi au travers de l'Esprit. Et ça devrait nous pousser à réfléchir sur notre comportement, sur notre manière d'agir. Jésus sait tout de moi, voit tout de moi, connaît toutes mes pensées. Et des fois, je vais aller prier sans demander pardon, en croyant qu'il n'est pas au courant. Dieu sait tout. Quelque part, ça me rassure, mais en même temps, ça doit me faire réfléchir sur ma manière d'agir et de vivre. Ça doit aussi me pousser à le laisser dans ma vie, avoir l'autorité de plus en plus. Je le dis souvent, on dit Jésus est mon Seigneur, mais on dit ça avec une rapidité, comme un adjectif. Mais c'est un Seigneur, et un Seigneur se fait respecter, se fait obéir normalement. Et si je dis que Jésus est mon Seigneur, je veux justement qu'il ait autorité dans ma vie. Ce temple est aussi un témoignage, pas forcément que pour nous, mais pour ceux qui sont à l'extérieur. Ah, tu es chrétien? Ah ouais? Et s'il est un peu plus malin, s'il connaissait la Bible, il dit, tu es le temple du Saint-Esprit, mais tu as vu comment tu agis là? Tu triches avec les impôts, hein? Ah oui, tu es le temple. On a le Saint-Esprit en nous, mais c'est aussi quelque part un témoignage parce que les autres nous voient vivre et devaient voir autre chose que ce que fait le monde tous les jours. Je ne sais pas s'ils nous évaluent parce qu'ils ont peut-être autre chose à faire, mais moi, on m'a toujours dit, t'es un chrétien, t'es bizarre, hein? Curieux. On se moque de toi, mais c'est pas grave. Je dis, écoute, moi, je sais où je vais. Toi, tu ne sais pas, par contre. Mais on nous voit, et il faut voir une différence. La Bible nous donne aussi des outils pour la sanctification, parce que moi, je veux bien me mettre en marche, mais comment faire? Dans 1 Timothée 4, verset 5. Quelqu'un là? Premier outil? C'est pas un réflexe chez vous, hein? Le premier outil, c'est la parole de Dieu. Si je veux commencer à travailler dans ce domaine, la parole de Dieu est le premier outil pour pouvoir être sanctifié. Vous ne pouvez pas faire autrement. Je suis désolé, hein. La parole a été inspirée par l'Esprit, elle purifie, elle lave le croyant, me dit Ephésiens 5, 26, à condition qu'il la lise. On est bien d'accord? Vous pouvez essayer de laver votre voiture sans aller à Carwash ou je ne sais pas quoi, elle sera toujours sale. Ben oui, mais c'est exactement la même chose. Et après, vous vous demandez, mais pourquoi ma voiture est toujours sale? Il faut y aller. Si je ne lis pas la Bible, ben ce travail de sanctification ne sera jamais dans ma vie. Et je resterai, comme dit Hébreu, un bébé, avec un peu de nourriture de temps en temps, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Et la parole de Dieu me confronte à la sainteté de Dieu, comme étant ma norme maintenant en tant que chrétien. Et forcément, le disque dur, il est reformaté chaque jour, si je la lis. Plus ou moins, selon où j'en suis aujourd'hui. Mais je suis obligé de me poser des questions et des fois de changer mes habitudes. Et le deuxième outil, c'est la prière. Tiens bon, le pasteur qui dit toujours il faut prier, prier, enfin, il saoule le pasteur des fois. Ouais, mais c'est pas par hasard, parce que la prière est là aussi pour nous sanctifier. Quand je prie, normalement, je ne vais pas crier « j'ai besoin », on avait vu ça. D'abord, je me rends compte devant qui je me tiens. Et si je me rends compte vraiment que Dieu est saint, j'y vais tranquillement. Je me rends compte que j'ai besoin de lui demander pardon, de me repentir de mes péchés, de ma façon d'être, de voir, etc. Mais si je fais ça régulièrement, alors on prend les habitudes, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais si je fais régulièrement ce travail de prise de conscience de qui je suis et de demander pardon au Seigneur, forcément ça va laver le cœur et l'âme, obligatoirement. Puis un troisième outil, il n'est pas dans le verset, mais moi je crois que c'est un bon outil, c'est l'Église. Vous me sanctifiez. Je vous sanctifie, d'une certaine manière. C'est un moyen de s'encourager, de se corriger aussi. Parce que Dieu aurait pu imaginer que vous restez chrétiens chacun dans votre coin, et puis, je ne sais pas si ça nous aurait vraiment aidé. Mais le fait de vivre ensemble, c'est toujours facile, c'est ça? Des fois, pasteur, vous énerve. Hein? Mais c'est fait pour nous sanctifier aussi. Et c'est formidable de pouvoir avoir des frères qui me reprennent, ou qui m'encouragent, qui participent dans ce travail pour changer, justement. Hébreux 12, 14.
Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
J'aurais enlevé la sanctification en disant rechercher la paix avec tous, hein, ou l'inverse, mais les deux semblent un peu liés. Pour qu'on ait la paix dans l'Église, il faut qu'on apprenne à se laisser transformer, sanctifier par la parole, par la prière et parfois par les autres, et particulièrement celui qui m'énerve. Bien souvent. La sanctification progressive, donc, c'est une transformation quotidienne durant tout le reste de ma vie. Ce n'est pas un poids qu'on doit se prendre aujourd'hui sur les épaules. Au contraire, c'est quelque chose que Dieu va faire tranquillement dans notre vie, mais il faut le laisser faire, tout simplement. Et heureusement qu'un jour, on arrivera à cette sanctification finale, un état de perfection. Vous imaginez parfait? Il y en a déjà qui s'imaginent. Hein, parfait. Bon. On est loin d'être parfait, ça je vous garantis. Mais un jour, on le sera. Et c'est la sanctification progressive qui va conduire justement à cette perfection. Elle nous conduit à devenir irréprochables pour pouvoir rencontrer Christ à un moment. Je pense qu'avant même de rencontrer Christ, on sera complètement transformé. Mais aujourd'hui, je vis un petit peu cela déjà par avance, même si je suis loin d'être parfait. Et un jour, je serai dans l'éternité, parfaitement saint, sans péché. Moi, je n'arrive pas à imaginer, vous peut-être, vous êtes plus avancé que moi, mais je ne peux pas imaginer ce que c'est que de pouvoir obéir à Christ parfaitement, de ne plus embêter mon frère, ma femme, il n'y aura plus de femme là-haut, mais bon, j'aimerais bien que ça arrive déjà aujourd'hui, comme ça je serai un mari parfait, ce n'est pas le cas. Mais voilà, on sera irréprochable, parfait dans le ciel. Hébreux 10, 14.
Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés.
Voilà, si nous sommes sanctifiés, si nous sommes nés de nouveau dans l'éternité, nous serons absolument parfaits dans le ciel. À ce moment-là, le Seigneur va débarrasser notre vieille nature de péché une fois pour toutes. Plus jamais nous pécherons. Nous serons obéissants parfaitement au Seigneur. Quelle joie Quelle joie, tout simplement, non ? Jean, on arrive à éprouver cette joie quand on essaie de le faire à peu près du vivant, mais alors quand on sera là-haut, je ne sais même pas si on comprendra qu'on a été transformé complètement, on verra bien. Mais ça fait partie aussi de mon héritage, de mon cadeau, ce cadeau immérité de la grâce que le Seigneur a fait pour moi. Il aurait pu nous laisser dans nos péchés, et débrouillez-vous pendant le reste de votre vie, et puis après on verra dans l'éternité ce qu'on va faire avec vous. Non, le Seigneur participe à ma transformation aujourd'hui, et en plus il m'a fait le beau cadeau de me transformer parfaitement pour l'éternité. Sympa, non ? Ouais. Quelqu'un qui est mort pour ça, quand même. Hein, j'aimerais jouer. Ça devrait vraiment nous travailler dans notre esprit, et pas simplement, ouais, on le sait, hein, on le sait. Non, non, ça devrait nous réjouir. Mais par rapport à ça, on peut aussi faire des erreurs, hein, parce que certains voient la sanctification comme le perfectionnisme. Parfait. Non, je ne pense pas que la sanctification soit le perfectionnisme. On aura une purification totale le jour où on sera au ciel, mais aujourd'hui, nous y tendons. Être perfectionniste n'est pas la même chose que tendre à être saint de plus en plus. Cette sanctification, c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas moi qui l'a fait. Donc si je veux devenir perfectionniste, c'est pas l'œuvre de Dieu à ce moment-là. Et en même temps, il faut que je comprenne que Dieu sanctifie chacun, enfin, a son programme avec chacun, et il est différent. Vous n'avez pas le programme que j'ai, François n'a pas le programme que moi j'ai. Et donc forcément, chacun travaille, enfin, le Seigneur travaille avec chacun d'une autre manière, et selon son temps, selon que l'un avance ou pas. Et je n'ai pas à me comparer, peut-être au bout de 20 ans, en me disant, qu'est-ce que je suis en avance sur les autres, hein, en tant que pasteur, waouh, si vous saviez. Donc on n'a pas à se comparer, tout simplement, hein, et se sentir, moi je suis plus sanctifié que les autres. Deuxième erreur, c'est, j'ai déjà entendu, hélas, c'est que maintenant que je suis saint, parfaitement saint, que j'ai l'éternité devant moi, je peux pécher allègrement. Je l'ai entendu. Il y en a qui le pensent. Quelque part, techniquement, ouais, je ne pense pas que la personne soit de nouveau. Enfin, bon. De toute façon, au bout, je suis transformé, donc je peux y aller, et puis je demande pardon, et je recommence, etc. Non, c'est une erreur. Parce que la Bible nous dit aussi que même si on est sauvé, on paraîtra devant le tribunal de Christ. Et on aura des récompenses ou pas, selon ce qu'on a fait de bien et de mal dans notre corps, dans 2 Corinthiens 5, 10. Donc on sera aussi évalué, pas pour notre salut, mais pour ce qu'on aura fait dans notre vie. On le sait, mais il faut nous imaginer devant le tribunal de Christ aussi une fois. Est-ce qu'on sera en train de sourire devant Jésus ? Je suis fier de moi, ou est-ce qu'on sera en train de rougir ? Je pense que la plupart va rougir, à mon avis. Moi, le premier. C'est vouloir pécher, c'est, enfin, se dire je peux pécher alors que je suis sauvé, c'est aussi mépriser la croix, quelque part. Jésus est mort pour me débarrasser du péché, pas pour en profiter, justement. Puis une troisième erreur, c'est est-ce que le chrétien doit rester dans un état misérable ? C'est-à-dire, j'y arrive pas. Pas à changer. Ça vous arrive pas de vous dire ça des fois ? Qui a réglé le problème de la colère ? On fait moins les fiers, là. Hein. Et, alors, la colère, on se comprend bien, mais il y a d'autres domaines où on dit, je ne peux pas changer. Et donc, je reste comme ça en tant que chrétien pendant le reste de ma vie. Seulement, on a dit, Dieu veut ma sanctification et peut aussi ma sanctification. C'est ça le problème. Hein. Si je dis que moi, je ne peux pas changer, c'est diminuer complètement ce que Dieu veut faire comme programme dans ma vie. Ça ne dépend pas de moi. Il faut que maintenant, je coopère tout simplement avec le Seigneur. Et vous savez, quand vous le faites, Dieu vous aidera à vous débarrasser de vos péchés et des mauvaises habitudes. Il prend son temps des fois, il a sa manière de faire, mais avec le temps, les choses changent dans votre vie. Mais il faut se soumettre au programme de Dieu. Je l'ai dit, Dieu ne lobotomise pas. Bon, oh, je suis saint. Ce serait bien, ce serait pratique quelque part. Mais c'est être des petits robots dans ce cas-là, c'est plus être un être humain et surtout pas un enfant de Dieu. Ou alors, si vraiment je me dis que je ne peux pas avancer, etc., je dois me poser la question, est-ce que je suis vraiment né de nouveau ? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Parce que si rien change dans ma vie depuis, soi-disant que je suis né de nouveau, c'est que je ne suis peut-être pas né de nouveau, tout simplement. Donc voilà, la sanctification finale, c'est l'état de sainteté amené à la perfection et pour l'éternité. Moi, je me réjouis, enfin, j'espère bientôt ce jour, parce que le péché, ça m'énerve, je ne sais pas vous, quelque chose que j'aimerais me débarrasser une fois pour toutes, il sera là, hélas, encore jusqu'au bout, mais quand on n'aura plus ça dans notre cœur, qu'on fera plaisir au Seigneur pleinement, même pas grâce à nous ou avec notre volonté, parce que lui aura fait cette œuvre en nous, là, on pourra sourire devant le Seigneur et le chanter allègrement. Pour terminer, nous l'avons vu, vous voyez, la doctrine, c'est aussi la pratique au quotidien. Trois étapes de la sanctification, le salut, qui est cette forme juridique, cette position que nous avons devant Dieu, Cette sanctification progressive, c'est la vie au quotidien, la transformation que le Seigneur veut faire en profondeur dans notre vie, dans notre âme, dans notre esprit, notre pensée, notre réflexion, etc. Et finalement, l'aboutissement, on va dire, de cette vie, c'est le ciel où je serai absolument parfait. Ah, si on pouvait avoir l'église là-haut, ça serait super, non ? Tout le monde parfait. Hein ? Mais non, c'est très bien d'être comme ça aujourd'hui. Dieu veut notre sanctification, nous l'avons dit. C'est pas juste un petit projet qu'il propose aux chrétiens. Dieu veut. Et quand Dieu veut, c'est important, je crois. Il faut que ce verbe, il entre dans mon oreille, dans mon cœur, pour que je comprenne que j'ai besoin d'adhérer à ce programme de Dieu. Vous savez, Dieu veut notre sanctification, c'est pas pour nous embêter. C'est parce qu'il nous veut heureux. Quand je pêche, je suis malheureux. Quand j'ôte le péché de ma vie, je deviens heureux. Et moi, je dis à Dieu, non, je veux garder mon habitude là, je suis bien comme ça. C'est comme ça. Mais si on a compris qu'une fois débarrassé de tout ça, on est réellement heureux et dans la joie, il faut l'avoir vécu pour comprendre ça. Ça va beaucoup mieux. Autrefois, moi, je fumais 3 paquets par jour. J'étais heureux, hein. Oh, la bonne clope et tout. Mais une fois que le Seigneur m'a débarrassé de tout ça, la délivrance qu'il y a eu à ce moment-là. La joie de sentir les odeurs. Maintenant, je mange beaucoup. Mais... Non, c'est pas vrai. Mais c'est la même chose avec le péché. Une fois qu'il est enlevé, une fois que nos mauvaises habitudes sont enlevées, il y a une joie qui commence à rentrer dans notre cœur. Alors, réjouissons-nous de cette perfection que le Seigneur veut nous faire atteindre, doucement sur la terre, mais qu'on aura dans le ciel. Pour terminer, je laisserai juste avec cette histoire du forgeron. Hein. Un forgeron chrétien était durement éprouvé. Un incroyant lui en demanda la raison et lui répondit « Quand je chauffe au rouge du métal, je donne quelques petits coups de marteau pour voir si la pièce tiendra la trempe. Si le résultat est bon, je la plonge dans l'eau, puis je la rechauffe, la replonge, ainsi de suite, la pièce est chauffée, frappée, trempée, travaillée. Elle fera un bon outil qui pourra durer au moins 25 ans. Mais si au premier coup de marteau, je me rends compte qu'elle ne tiendra pas la trempe, je la jette dans le tas d'ordures. » Le forgeron de dire « Ma prière à Dieu est celle-ci, Seigneur, mets-moi dans le feu si tu le veux, mets-moi dans l'eau si tu penses que j'en ai besoin, fais ce qu'il te plaira, Seigneur, mais surtout, ne me jette pas dans le tas d'ordures. » On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et qui nous dit ce que tu veux pour chacun d'entre nous, un programme bien clair qui est la sanctification. Moi, te reconnaissant déjà d'avoir pu avoir cette grâce dans notre vie et cette sanctification positionnelle, juridique. Tu nous vois comme saints, Seigneur, au travers de Jésus-Christ. Et quelle joie, Seigneur, de le savoir. Et maintenant, tu veux que nous soyons transformés chaque jour un petit peu plus dans cette sanctification progressive. Seigneur, tu sais combien nous résistons et qu'est-ce que nous sommes forts dans ce domaine-là. Mais fais fléchir notre cœur, nos habitudes et que nous puissions te ressembler davantage chaque jour. Et Seigneur, mets chaque matin dans notre cœur la joie de savoir qu'un jour nous serons absolument parfaits à cause de toi, Seigneur, en cette sanctification finale, sans péché, à ta gloire, Seigneur, parfaitement. Et c'est notre joie et toute notre espérance. Seigneur, merci parce que tu aurais pu nous laisser nous débrouiller seuls, mais tu nous accompagnes dans ce travail. Et aide-moi, aide chacun d'entre nous à te ressembler davantage. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.